tout d'abord, merci d'avoir organisé cette conférence débat, et merci aux conférenciers. Bon, mais jusqu'où aller dans... Bon, c'est, effectivement, c'est un défi important. Bon, mais est-ce qu'on aura vraiment les pouvoirs d'aller jusqu'au bout? Exemple parmi tant d'autres, au niveau gestion du personnel. Vous avez parlé de l'importance des ressources humaines. Bon, ce qu'il y a, c'est que, bon, il y a le recrutement, mais il y a aussi la gestion du personnel existant. Bon, ce cas, c'est que bon, un chef de corps peut peut-être souhaiter avoir un greffier en chef qui n'a toujours pas depuis 20 mois, un des greffiers chef de service qui n'a toujours pas depuis 20 mois, et peut-être beaucoup moins de collaborateurs de niveau D où on a 39 collaborateurs pour un cadre de 24 ans. Jusqu'où on pourra aller? Est-ce qu'on pourra dire, bon voilà, il y a 10 personnes, il y a 20 personnes qui ne conviennent pas du tout au profil que nous on souhaite pour justement faire en sorte que, bon, les choses aillent bien. Un. Deuxièmement, il y a peut-être aussi, vous avez attiré notre attention sur on le savait déjà, hein, bon, sur des nouveaux clients, notamment l'importance des statistiques. Bon, on a des outils statistiques pour l'instant. Chaque juridiction, chaque cours a des outils statistiques. Bon, on peut citer par exemple le TCKH pour les juridictions commerciales. Dès l'instant où on va renvoyer la gestion par exemple des faillites, hein, à d'autres sociétés privées, moyennant l'attribution à des ordres d'avocats, quelle est encore la possibilité pour un chef de corps qui reste un peu au balcon, qui est donc une relation juridique entre d'une part le contrat qui existe entre l'OVB, l'OVFG et la société privée, je ne vais pas citer, mais au niveau statistique, est-ce que nous, on pourra contraindre justement à dire, bon voilà, il y a une part importante de valorisation des statistiques, bon, tout doit être encodé, alors que c'est du travail supplémentaire. Ben, y a tellement de questions, mais je vais vraiment limiter au maximum. Oui, la composition du collège aussi. Là aussi, on sait que c'est très important au niveau attribution des budgets. Bon, on a quand même 3 présidents de TPI, tribunaux de premier instance, 3. Bon, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, alors qu'il y en a 4, donc il y aura quand même une majorité au niveau de TPI et tout d'après.
J'ai perçu 3 questions, de mon point de vue, et puis Jean-Paul, tu me compléteras si tu veux bien. Donc tout d'abord, en ce qui concerne la question de savoir, j'ai plus besoin d'un greffier en chef que de 2 collaborateurs ou 3 collaborateurs. C'est l'idée du modèle, je le répète, il n'est pas aujourd'hui définitivement décrit, forcément, mais ça rejoint la considération du ministre qui veut tout simplement, à la fois pour la magistrature, mais aussi pour le personnel des greffes et des secrétaires de parquet, tout simplement abroger la notion de cadre. Et de dire, voilà, chef de cadre, ça n'existe plus, vous aurez un budget. Et ce budget, il sera de 1 000. Et dans ces 1 000, sous réserve, évidemment, la limite, c'est celle de ce que vous avez en existant, parce que vous ne pourrez jamais licencier votre greffier en chef qui a encore 15 ans de carrière. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Mais je veux dire, sous la réserve de l'existant, l'idée du modèle est de faire en sorte qu'à l'avenir, vous puissiez transformer votre budget au gré des besoins que vous percevez dans votre greffe, par exemple. Et ça pourrait être la même chose, mais je le sens comme assez complexe au niveau de la magistrature. Deuxième question, relativement aux faillites au bien commerce, je suis un peu moins outillé en la matière, mais j'ai cru comprendre votre question, que le souci était de garder la maîtrise de l'outil statistique ou avoir l'accès à la bande statistique. Je crois que ceci est au cœur d'un débat actuel. Lorsque j'évoquais tout à l'heure la relation client-fournisseur en matière d'ICT, c'est pas exactement la même chose, mais ça a certaines accointances. Il est évident que ça devra être une préoccupation, parce que il est certain que la limitation, l'idée du ministre, il est pas pourri, c'est cela, c'est de dire, bon, il y aura moins de moyens pour l'ordre du judiciaire, donc il y a 2 façons de résoudre cette équation. 1, travailler mieux avec moins de moyens, mais 2 aussi, sortir du champ judiciaire certaines compétences par des modes alternatifs de règlement des conflits, etc. Ceci en est un, mais ça n'empêche qu'il faut garder la main.
Et troisième chose, composition du collège et trois magistrats de première instance. Bah, vous savez, il y a quatre premiers présidents aussi. Ce serait plutôt les juridictions dites spécialisées qui pourraient se plaindre de n'avoir qu'un représentant. Hein, vous en faites partie, moi aussi d'ailleurs. Mais à partir du moment où on discute sur des principes généraux, ça ne pose pas trop de problèmes. Dès qu'on entre dans certaines particularités qui ont trait à une juridiction spécifique, c'est vrai que le péril existe. Mais s'agissant de la répartition de moyens, par exemple, qui est quand même, je crois, une des choses à laquelle vous pensez naturellement, eh bien, je crois qu'au plus loin on ira dans la détermination de critères objectifs qu'on ne pourra que peu contourner, au plus le champ sera bien défini et la répartition sera plus simple. Maintenant, ça c'est l'enjeu, et Dieu sait si c'est un enjeu difficile. Mais il faut objectiver au plus la répartition pour que ce jeu d'influence ne puisse pas jouer.
Oui, simplement, je confirme. Hein, donc, c'est bien l'idée, c'est que les cadres vont disparaître à terme. Et on va parler en enveloppe. Vous avez une enveloppe de X milliers ou millions. Si vous avez une marge de, par exemple, 100 000 euros dans votre enveloppe, ben, les 100 000 euros, vous allez pouvoir décider comment les affecter. Si ce sont des niveaux A, un niveau B ou d'autres niveaux. Donc, en principe, ça devrait quand même vous donner cette souplesse qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est enfermé dans des cadres qui ne correspondent plus à la réalité et aux besoins. Donc, pour moi, c'est un plus. C'est vraiment un plus. Sur l'analyse des statistiques et des tâches, etc., je pense que là, le collège, on va parler que du collège du siège, aura un rôle essentiel à jouer. Donc, vous allez être vraiment, c'est ma vision, en discussion permanente avec les analystes, hein, disons ça comme ça, du collège, pour mettre au point une série de tâches, les appréciations, les volumes, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose de... Mais le débat sera d'abord intramuros, hein, et après, avec le ministre. Mais il y aura déjà d'abord un travail intramuros, donc... qui n'est pas simple, puisqu'on ne le fait pas jusqu'à présent. Hein. On ne le fait pas, on le fait un petit peu, mais ou on le fait un peu à sa manière. Ça dépend beaucoup des initiatives personnelles. Là, je pense qu'on va entrer vraiment dans quelque chose de beaucoup plus structurel. Et donc compliqué. Quoi.
Je vais prendre, on va prendre trois questions en même temps. D'abord, M. Vertu. Oui. Et puis ensuite...
Attendez.
Excusez-moi.
Quelles règles va-t-on recruter les agents ? On va prendre une série de questions et on répondra, M.
Oui, je voulais revenir sur la conclusion des contrats de gestion. On voit bien que ces contrats vont être conclus en particulier à sauvage de données statistiques, hein, dont le plus simple, c'est le coût de recours. Mais il me semble qu'il est indispensable d'avoir une deuxième ramène, une deuxième donnée, c'est la qualité qui va être dans le service. Faire ma part, le collège est déjà compétent pour cette qualité. Je me demandais, dans les négociations qu'on a dit, est-ce que le collège a mis en œuvre ou a une vision sur la manière de devoir défendre donc un service de qualité, et comment on va le mesurer au travers de ces contrats de gestion qui nous semble un des problèmes essentiels dans le cadre de ce genre de convention.
Et dernière question.
Et de les remplacer par quoi ? Par une enveloppe budgétaire. Ce qu'il faudrait, c'est se rappeler pourquoi est-ce qu'il y a des cadres. Les cadres, c'est une garantie de l'autonomie et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le cadre est décidé par le législateur, par le vote d'une loi. Et alors on dit, c'est trop mieux. Ça ne correspond plus au besoin. Une enveloppe budgétaire, c'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus souple pour modifier l'enveloppe budgétaire. les promesses d'un ministre, parce que moi, on ne fait pas, on ne fonde pas un pouvoir judiciaire, son indépendance, sur les promesses d'un ministre dont on voit que par ailleurs, il n'en respecte aucune. Donc, j'ai l'impression que c'est une supercherie, une idée de le cadre et le correspondant aux besoins, car je suis d'accord, remplit son rédac. Il correspond plus aux besoins, ils sont remplis, remplit son rédac. Ou alors, dites la vérité, l'État n'a plus les moyens d'avoir la justice qu'elle a. Et on ne peut plus remplir le cadre, il faut supprimer le cadre. Mais je crois qu'il faut le dire de façon plus correcte et pas dire c'est un grand progrès et ça va aller beaucoup mieux. En ce qui concerne la qualité de vos questions, j'ai bien entendu mais il a dit de toutes les discussions, ce qui ressort quand même le plus, c'est la quantité. Et pas la qualité. Et avec un contrôle de l'inspection des finances. Que faites-vous pour renverser la loi, pour que ce ne soit pas la quantité, on sait tous, membres du pouvoir judiciaire, un titre ou un autre, que ce n'est pas la quantité qui est la qualité, la meilleure manière à laquelle c'est nécessaire d'un pouvoir judiciaire. C'est la qualité. Que faites-vous pour renverser cette tendance? Est-ce que vous si vous constatez que dans la suite de vos discussions, la quantité reste le critère principal, c'est à un moment donné, on va s'arrêter. Mais j'ai entendu sa dernière phrase. La force du pouvoir judiciaire, c'est que s'il n'est pas d'accord avec les contrats qu'on lui propose, c'est de les refuser.
Évidemment.
La dernière question
de M. Louveau,
et puis on va.
Moi aussi, je remercie les orateurs parce que ça nous a plongé dans la réalité. Moi, j'avais du mal à visualiser les choses concrètement, et c'est bien. Ceci dit, et je m'en vais sur Jacques Anglebert, hein, qui est assez beaucoup plus que vous, mais ma réflexion va être aussi, elle correspond à une réflexion que se font les associations de magistrats. Je suis venu au tribunal de première instance, je suis aussi actif à l'ASM, mais à l'UPM et dans les autres associations, on se préoccupe aussi beaucoup de cette question-ci. On sait que la loi de 2014 a réglé des choses qui sont assez clichées dans ces trois cadres, mais on s'apprête à les modifier pour la Cour de cassation, si j'ai bien compris, sur base d'un nouveau modèle. Qu'il y a une réflexion mise en cause de ce modèle réservé à la Cour de cassation. Or, les réflexions qui sont à la base de cette mise en cause sont peut-être des très bonnes réflexions. Comme c'est Arthaud, le recours dans lequel nous avons échoué dans ces associations de magistrats contre cette loi de 2014 qui a été rejetée par la Cour constitutionnelle, mais dans lequel on mettait fondamentalement en cause beaucoup d'aspects de ce modèle que vous nous avez décrit. Mais donc, je reviens donc à cette réforme de la loi de 2014 en revoyant le modèle pour la Cour de cassation, pourquoi ne pas étendre, c'est une question qui traverse beaucoup de monde hein, dans le monde judiciaire, pourquoi ne pas étendre cette remise en cause à l'ensemble de l'appareil judiciaire? C'est la première question. Et cette question va prendre la forme, je précise, de revendications extrêmement nettes de la part des associations dont j'ai parlé. Et une deuxième question qui est elle est super importante, mais enfin elle porte sur un point sympathique, c'est entre le Conseil supérieur de justice, commission de nomination et désignation et les structures de gestion future, actuelles, comment est-ce qu'on va tracer la frontière dans les compétences, puisque on imagine bien que une personne qu'on va accueillir au niveau judiciaire par l'équipe de magistrats à son arrivée va être nommé donc par le Conseil supérieur à l'avenir, et ensuite une fois que cette personne va voyager entre un tribunal une cour, un tribunal et un autre tribunal etc. Où se situera la décision suivant les négociations actuelles qui n'est pas encore tout à fait décidé. Merci. Mm-hmm. Merci.
Sur la question des règles de recrutement, ben, actuellement c'est la loi qui prévoit les règles de recrutement. Donc si on veut les adapter, il faudra adapter la loi. Et alors, bah, y a là naturellement une discussion nouvelle qui va se mettre en place, c'est notamment si demain les collèges demandent une adaptation de la loi, que fait le ministre de la Justice? Est-ce qu'il devient le porte-parole du ou des collèges pour changer la loi et amener le débat politique? Ça, c'est une question vraiment nouvelle. C'est vraiment une question nouvelle. Aujourd'hui, on est dans un autre scénario. C'est toujours le ministre qui porte quelque chose. Bon, parfois, il porte des revendications venant du terrain. Mais c'est vrai qu'on risque d'avoir cela comme situation nouvelle. Mais tout comme situation nouvelle, si la convention n'est pas signée, que se passe-t-il? Justement, c'est pour ça que les négociations entre les collèges et le ministre pour une date du 1er janvier 2018, les négociations doivent commencer maintenant. Parce que ça, c'est une des hypothèses. Et c'est une hypothèse vraiment réelle. Maintenant, le paiement des salaires a toujours lieu, il y a une automaticité qui fait que, mais ce sont les frais de fonctionnement, naturellement. Ça peut poser des questions. Donc là, c'est encore une question nouvelle, mais je reste convaincu, et je me répète, c'est un vrai levier pour l'ordre judiciaire. Cette convention est un vrai levier. Et je crois que, d'ailleurs, on le voit aussi dans d'autres hypothèses, avec des entreprises publiques autonomes, où à un moment donné, les discussions s'accélèrent, et il faut à tout prix que la convention soit signée avant telle date, sinon on aura des problèmes. Je pense que pour la justice, ça sera exactement la même chose. Suppression des cadres, modifier les cadres, garantie de l'autonomie, etc. Écoutez, moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, les cadres sont une garantie pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, les cadres ne sont pas remplis, il y en a, ils sont à moitié vides. Alors, moi, je ne vois pas ces cadres comme une vraie garantie. C'est pas une vraie garantie. Alors, les cadres respectés, mais qu'est-ce qu'on fait quand ils ne sont pas respectés?
Celui qui vient la loi vient expliquer que la loi qu'il a votée n'est pas une garantie, puisqu'il l'a violée déjà. Quand j'ai répété ça devant le magistrat, que les violations. Comme ce n'est pas une garantie actuellement,
on doit comprendre. Non. Quand on vient le discours, il le met comme ça. Non, mais. Je trouve que. Enfin, je ne vois pas. Pour moi, ce n'est pas là la vraie garantie. Parce que de quel cadre parle-t-on? Tous les cadres. Le cadre des magistrats, le cadre des greffiers, le cadre du personnel, etc. Pour moi, c'est pas là la garantie, franchement.
Moi, je t'en prie. Je voudrais peut-être, oui, répondre très rapidement, parce que je vois qu'en outre, le temps imparti est en train d'être atteint, mais j'ai entendu poser la question de qualité, j'ai entendu poser la question de cadre, de dotation, et alors celle des nominations en dernier lieu. Bon, j'essaie de me faire comprendre en tant que représentant d'un organe institué par la loi. J'essaie de respecter la loi tant que faire se peut. À ce titre, si j'ai accepté d'y figurer, si j'en suis le président aujourd'hui, je vis dans le cadre étroit de cette institution-là. Et je fais une première mise au point, et j'entends bien le ton qui est donné aux questions posées, à certains du moins, et je comprends ce ton d'indignation, c'est tout à fait bien, et j'insiste sur le fait que précisément, je ne rate pas une occasion pour dire combien, à l'heure qu'il est, les associations de magistrats, telles que celles qui ont été citées, ont un rôle énorme à jouer. J'en suis membre de l'une d'elles, je suis activement toutes les publications et autres. J'ai adopté un certain devoir de réserve qui paraît appartenir à ma charge. Mais je ne parle pas de moi, je parle de l'ensemble. Je vous exhorte à faire valoir des arguments comme ceux que vous avancez ici. Je vous y exhorte et je le dis en étant enregistré. Mais de mon côté, permettez-moi d'adopter un ton réaliste. Et quand je dis un ton, c'est plutôt un contenu réaliste. Parce que quand nous sommes en face du ministre, et je suis bien d'accord qu'il y a une part d'indignation à dire, mais ce ministre, enfin, quand ce ministre et ce gouvernement et ce qui ne respecte pas un cadre, oui, ok, on y est, on en est là. la question fondamentale allait de savoir, et Jean-Paul vient de l'évoquer, est-ce qu'il y a plus de garanties avec un cadre pas respecté et nous n'arriverons jamais, nous, pouvoir judiciaire, à le faire respecter, qu'avec un budget? Le problème se posera dans les mêmes termes si les budgets ne sont pas respectés non plus, mais avec la différence qu'avec les budgets, on aura une plus grande souplesse. Avec la condition, pour le cas particulier de la magistrature, d'être toujours très attentif à sa garantie d'indépendance et d'inamovibilité en interne. Ça, c'est pour les cadres et le budget. Mais encore une fois, moi, oui, dans un monde idéal, je préférerais de loin un cadre strict, rempli du jour au lendemain, quand quelqu'un part, quelqu'un arrive. Mais ça, c'est le monde idéal dans lequel nous ne sommes pas. Hein. Maître Englebert a ajouté la question, est-ce que notre État n'a plus les moyens de nous payer, etc., une justice digne de ce nom? Mais je n'en sais rien, moi. Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est que partout, et ça, c'est aussi une approche politique, enfin, c'est pas une approche, c'est des considérations politiques qui ne sont pas de notre ressort, dont nous ne pouvons les vivre qu'en témoins, sauf à agir en tant que revendiquants, ça c'est autre chose. Mais je constate que dans tous les pays qui nous entourent, les services publics, pas que le service public justice, même si c'est un troisième pouvoir chez nous, c'est pas le cas partout, eh bien partout on réduit de 10, 15 ou 20%. C'est un constat, c'est un axiome, c'est une situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors dans ce cas-là, on a deux possibilités. Ou bien on s'indigne et on fait plus que ça et on dit ben, si c'est comme ça, je me révolte et il faut le faire par certaines voies. Et d'un autre côté, ou bien on essaye d'accompagner pour en quelque sorte un peu limiter les dégâts. Et je crois que c'est ce que nous, dans notre rôle aujourd'hui, nous essayons de faire du mieux qu'on peut, c'est d'accompagner des situations dans lesquelles il y a pénurie en essayant de tirer le meilleur parti de la pénurie. Ça, c'est pour les cadres, pour la dotation. Mais évidemment, chers collègues, il n'y a pas une réunion où l'un d'entre nous ou plusieurs d'entre nous ne disent au ministre, mais ministre, c'est quand même tellement facile, vous allez vers ce régime de dotation pour la Cour, mais adoptez-le pour l'ensemble de l'organisation judiciaire, donnez-nous un modèle sur la base d'une dotation, ça nous ira beaucoup mieux. Donc on le fait, vous savez, je vous assure. Sur le plan des nominations, mais là, en effet, et il en sera question lors du colloque de l'ASM le 12 février, la rencontre entre les différents acteurs de la mise en œuvre de la gestion et particulièrement de la gestion autonome fait en sorte que un des facteurs, une des clés de réussite sera une convergence, j'emploie le mot, entre les collèges et le Conseil supérieur de la justice, et particulièrement en matière de nomination. Je crois qu'il faudra qu'il y ait quelque part un terrain commun à pratiquer, notamment au plan des profils, par exemple. Parce que hein, quand vous évoquez le choix fait par le Conseil supérieur d'un magistrat qui ensuite va s'inscrire dans une organisation, ben, évidemment qu'il faudra qu'il y ait convergence, ou alors ce sera un tollé. En ce qui concerne la qualité, ça n'est pas la moindre problématique, j'en conviens, et je crois qu'il faut avoir regard, ben, je crois déjà partout on peut conserver, et je constate qu'il y a des brèches, et là je le déplore, mais très fortement, c'est le double degré de juridiction, c'est une des garanties. L'autre garantie, c'est de garder une adéquation, et c'est une des alternatives. Quand on était jeune, qu'on faisait la multiplication, on avait la preuve par neuf. Notre preuve par neuf, à nous, sera de voir que les budgets, parce que c'est quand même un excellent moyen de contrôle, les budgets par type de juridiction ne s'écartent pas outre mesure du passé. Je parle du passé où il n'y avait pas la crise financière. C'est aussi un aspect de vérifier, de contrôler. Il y a eu dans les années 2000, Vincent, tu es juge de paix, la fameuse étude, et je salue le remarquable travail de la commission de modernisation à l'époque, la Just Pax. Eh bien, voilà un excellent modèle qui permet de dire, tiens, un bon jugement dans une justice de paix, ça coûte autant. Ce sont autant de références, on y est attentif, on a des limites, on essaye de faire avec. Voilà.